Sous sa tente, non loin de l'endroit d'où Antef avait décoché sa flèche vers l'Occident, Hésitoup et Toubastis préparaient le départ des maudits et de leurs 72 gardiens dirigés par le général Ptahotep. Il avait ordonné que l'on destine à chacun des deux groupes un troupeau de vaches et quelques taureaux. Ainsi, en comptant les esclaves répartis entre les sacrilèges conduits par le grand prêtre Unifère et les soldats commandés par le général Ptahotep, non moins maudits que leurs prisonniers, le nombre des exilés approchait 200 personnes. Le grand prêtre de Ptah venait d'être investi par le pharaon Ptolémée d'un pouvoir considérable à la tête du clergé du double pays. La répression de l'impie et du séditieux Unifère, grand prêtre d'Abydos, était l'occasion rêvée de montrer à tous les grands prêtres, notamment ceux du domaine de la couronne blanche, de la Haute Égypte, l'étendue de son nouveau pouvoir. Peu lui importait de servir un pharaon grec si cela devait lui apporter gloire et richesse. À lui le bénéfice d'une part conséquente de l'impôt Moïra, l'impôt des Grecs sur les jardins et les vignes d'Égypte. La folie de la révolte d'Unifère, dénoncée par Kémy, son épouse, était un cadeau des dieux. Kémy avait envoyé un certain Seksek, un scribe, le propre secrétaire particulier d'Unifère, l'avertir que ce dernier préparait une révolte, que la seule récompense qu'elle désirait pour son acte de délation était de partager la punition de son mari. Elle souhaitait qu'il soit exilé et non pas exécuté. Seksek, le messager, avait ajouté qu'il désirait aussi suivre en exil son maître et sa maîtresse. Hésitoup et Toubastis se réjouissaient déjà à la pensée qu'il ferait graver en hiéroglyphes sur les parois extérieures de son tombeau d'un million d'années à Memphis le récit des préparatifs de la condamnation d'Unifère, afin que les passants s'émerveillent de son génie. C'était lui qui avait eu l'idée, qu'il trouvait terriblement épique, de séparer de la portée d'une flèche les sacrilèges et leurs gardiens. Peut-être réserverait-il, pour l'intérieur le plus caché de son temple, l'aveu politique que s'il n'avait pas fait exécuter Unifère le sacrilège en place publique, c'était parce que son épouse Kémy voulait partager la punition de son mari. La mort d'Unifère aurait impliqué celle de Kémy. Peu lui importaient les motivations de cette femme. L'essentiel était de ne pas exciter la colère de la puissante famille de Thèbes dont elle était issue. Il en allait de sa propre réputation et du raffermissement de son nouveau pouvoir de chef du clergé de toute l'Égypte, que lui avait octroyé Ptolémée Philadelphe. En vérité, les envoyer tous sans exception vers l'extrême Occident, c'était les condamner à la mort, mais loin des yeux de leur famille. En revanche, il n'avouerait à personne qu'il se félicitait de pouvoir se débarrasser aussi du général Ptahotep. Cela, il ne le ferait graver sur aucun des murs de son tombeau d'éternité, car la politique suppose le tissage minutieux des fils de l'ombre et du secret. Le commun des hommes doit ignorer comment on les dirige. Si les gens ordinaires en venaient à connaître les arcanes du pouvoir, ils perdraient bientôt leurs illusions de justice. Ils découvriraient leur véritable état de bête de somme manipulée par les puissants. Ils cesseraient d'obéir, et sans obéissance machinale, il n'y a pas de société qui tienne. Le général Ptahotep, surnommé le Juste, était lui aussi issu d'une grande famille du clergé de Thèbes la Blanche, éternel rival de Memphis. Le chasser jusqu'au bel horizon, au nom du pharaon Ptolémée, l'associer au sacrilège d'Unifère, en lui imposant de les surveiller jusqu'à la montagne de Bakou où s'adosse le ciel, était une merveilleuse façon d'ôter à Thèbes un chef respecté, qui aurait peut-être gêné sa prise de pouvoir effective sur tous les temples de la Haute Égypte. Hésitoup et Toubastis se réjouissaient de le voir partir lui aussi au bout du monde, certain qu'il ne reviendrait jamais sur ses pas. Les lointains mugissements des troupeaux de vaches et des taureaux, qu'il avait prélevé sur le cheptel du temple d'Osiris et qu'il réservait aux deux groupes d'exilés, interrompirent les réflexions d'Hésitoup et Toubastis. À ces bovidés, il avait ajouté, également prélevé sur le domaine du temple d'Osiris, des ânes chargés de grands paniers remplis de boules de gomme d'acacia qui, mélangées à du lait, selon l'usage des hommes des sables, étaient très nourrissantes. Autant sur les vaches que sur les ânes avaient été placées les quelques dizaines de cruches vides trouvées dans le temple d'Osiris, dont la plupart avaient été remplies d'huile et de bière aux frais d'Unifère. Hésitoup et Toubastis avaient pensé qu'il était nécessaire que les exilés, d'un bord ou de l'autre, aient le sentiment de vivre bien, du moins jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment loin du Nil pour que le manque de vivres et une misère trop excessive ne soient plus une raison suffisante de revenir sur leurs pas. Il leur préparait à tous un long voyage sans retour par une porte ouvrant sur les sables rouges des déserts de l'extrême Occident, qu'il comptait bien refermer avec soin derrière eux. Il avait aussi veillé à ce que de grandes tentes en laine tissées soient réparties entre les sacrilèges et leurs gardiens. Quelques dizaines d'esclaves, hommes et femmes des sables, fidèles à A, le dieu du désert, les montraient et démontraient sur la route de l'extrême occident. Pour Unifer et son épouse Kémy, une tente chacun, et une autre pour les livres de la bibliothèque du grand prêtre quand ils décideraient de faire une halte prolongée. Pour leurs gens de maison, leurs esclaves et les gardiens des vaches, 10 grandes tentes où les hommes et les femmes dormiraient séparés par une simple tenture. Le général Ptahotep aurait le privilège d'une tente à lui, tandis que ses soldats seraient répartis dans 10 grandes tentes distinctes de celles des bergers, des hommes et des femmes des sables et des autres esclaves. Hésitoupetoubastis avait recommandé que dans l'un et l'autre camp, chez les esclaves notamment, le nombre des femmes soit supérieur à celui des hommes et surtout qu'elles soient jeunes, persuadées que les joies de l'amour physique sont le meilleur remède pour distraire les guerriers de l'appréhension de la mort. En vertu de la malédiction qu'il avait proférée au nom du pharaon Ptolémée, consacrant un intervalle infranchissable entre les sacrilèges et leurs gardiens, Hésitoupetoubastis répartit les vaches et les ânes chargés de jarres et de sacs de vivres à parts égales entre les deux groupes. Il ordonna qu'il en fût de même pour les pasteurs Yuntiu, au nombre de 30, qui accompagnaient les troupeaux, enrichis également d'ovins. Les bergers ignoraient qu'ils partageraient le sort des exilés sans même avoir pu prendre congé de leurs proches. Le grand prêtre de Ptah à Memphis fut inflexible quand, voyant dans le lointain deux bergers rebrousser chemin, ces deux-là n'avaient pas cru qu'on les empêcherait de rentrer chez eux, retrouver leur famille et leurs propres troupeaux, leurs richesses. Il les fit cribler de flèches aussitôt qu'ils eurent franchi l'intervalle sacré. On entendit alors les cris de désespoir des bergers Yuntiu condamnés à accompagner, soit dans le camp des sacrilèges, soit dans celui de leurs gardiens, des troupeaux qui ne leur appartenaient pas, jusqu'à l'extrême occident, le pays des morts. Pour prévenir d'autres fuites intempestives des bergers, Hésitoupetoubastis commanda au général Ptahotep de déployer ses archers tout autour des sacrilèges, en respectant la distance de la portée de la flèche d'Antef. Il devait constituer le périmètre d'un cercle dont le groupe d'Unifer était le centre, et qui se déplacerait ainsi d'un seul bloc jusqu'aux portes du désert occidental. Hésitoupetoubastis s'extasiait de l'ingéniosité de l'appareil punitif qu'il avait imaginé pour les impies. Pour un peu, il aurait été jaloux du grand prêtre Unifer qui n'évoluerait plus jamais que dans un espace coupé du reste de l'humanité, un territoire circulaire, un peu comme la statue d'un dieu enfermée au centre de son Naos, lieu infranchissable pour les non-initiés. Il se félicitait d'avoir le sens du sacré et la maîtrise de la langue des dieux. Et après avoir réglé les autres détails matériels de ce voyage inédit vers le pays des morts, le grand prêtre de Ptah alla prendre congé avec cérémonie du général Ptahotep, le gardien en chef du temple vivant et mouvant qu'il avait fait dresser autour d'Unifer et de ses sacrilèges. Ainsi que l'avait prévu Hésitoupetoubastis, le général Ptahotep, prisonnier de la parole donnée au nom de la Maat, la justice et la vérité, promit qu'il escorterait les maudits jusqu'aux portes du pays des morts, au pied de la montagne de Bakou, là où s'adosse le ciel. À l'entendre le proférer solennellement, le grand prêtre sut que le général ne manquerait pas à son strict devoir d'obéissance aux ordres sacrés du grand dieu Ptoléméorus. Restait la question difficile du trésor du temple d'Osiris. Quand Sek-Sek, le secrétaire scribe personnel d'Unifer, était venu dénoncer son maître sur l'ordre de Kémy, Hésitoupetoubastis avait immédiatement pensé qu'il allait pouvoir se l'approprier. L'or appelle la puissance se nourrit d'or. Le grand prêtre de Ptah ne se faisait pas d'illusions sur les motivations du pharaon grec qu'il avait fraîchement nommé chef du clergé égyptien. Ptolémée voulait mettre la main sur l'or des temples grâce à lui. S'il acceptait de collaborer à ce projet, c'était parce qu'il y trouvait son compte. Dès l'arrestation d'Unifer et de sa troupe de sacrilèges sur la grande terrasse du dieu, il avait pris des dispositions pour que soit menée une fouille complète du temple d'Osiris, jusqu'à ses salles souterraines les plus reculées. Mais hormis quelques petits objets précieux et des cruches en terre cuite vides qui ne présentaient aucune valeur, ses enquêteurs n'avaient rien découvert. Cela l'avait vivement contrarié. Tout eux ont bu, il avait convoqué le grand prêtre Unifer pour lui demander crûment où se trouvait l'or. Et, comme à sa détestable habitude depuis qu'il avait été fait prisonnier, le grand prêtre d'Abydos lui avait répondu avec morgue que le trésor d'Osiris n'existait pas.